Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mina El-Hadraoui, la directrice France de Natural Diamond Council, qui regroupe les 7 plus gros producteurs de diamants et qui totalise 75% de la production de brut mondiale.
Bonjour.
C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Est-ce que j'en ai omis ou est-ce que depuis il y a plus de
Non,
de plus
vous
de
n'avez rien du tout omis.
Ben, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte et je suis ravie de parler avec toi du diamant parce que récemment, j'ai reçu Manuel Malène, le fondateur de Courbet, qui est Place Vendôme et qui fait du diamant de laboratoire et qui m'expliquait que la production d'un diamant naturel d'un carat émettrait 160 kilos de CO2 et donc qu'il avait décidé, face à ce constat, de proposer du diamant de laboratoire à ses clients et m'expliquer en quoi ben, c'était plus responsable, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit, je vais écouter, alors pas l'autre côté, puisque finalement, c'est ce qu'on disait en off ensemble, c'est que toi, tu es là pour valoriser l'industrie globale du diamant.
Oui, tout à fait.
Et que tu m'expliques simplement quelle est cette limite, on va dire, environnementale, ces enjeux auxquels fait face cette industrie, pas forcément uniquement le diamant de laboratoire, le diamant brut. Pourquoi est-ce que c'est des ressources qui s'épuisent et comment on fait face à tout ça, en fait, aujourd'hui?
Je vais juste commencer par introduire deux notions qui sont extrêmement importantes. C'est la différence et la dichotomie entre un diamant synthétique et un diamant naturel. Donc un diamant naturel, par définition, il est trouvé dans la Terre. Il a été créé il y a entre 1 et 3 milliards d'années, au cœur de la Terre. Et au fur et à mesure des éruptions volcaniques et de ce qu'a fait la nature, le diamant est remonté à la surface, autour de 300-400 km de profondeur, puis ensuite encore un peu plus au-dessus. Le diamant synthétique est construit par l'homme, effectivement, au sein d'un laboratoire. Donc ce sont techniquement des produits similaires, puisque ce sont du carbone pur, mais un est naturel, l'autre ne l'est pas, par définition, et essentiellement construit par l'homme, fabriqué par l'homme. Donc c'est une imitation, une copie, si vous voulez, du diamant naturel.
Mais qui apparemment a toutes les mêmes caractéristiques
exactement,
que le diamant
normal.
Exactement,
c'est ce que je disais, oui. C'est les mêmes caractéristiques chimiques, donc on est sur un carbone pur. La différence aussi, c'est que derrière chaque industrie, on est sur quelque chose d'assez différent, parce que l'industrie du diamant naturel s'est remise en question il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc les sujets de développement durable et de RSE ne sont pas nouveaux, en fait. Pour eux, ils ont même été précurseurs, c'est une des industries.
C'était quoi d'ailleurs à l'époque les premiers enjeux, puisque c'est des enjeux qui ont évolué?
Exactement. Les premiers enjeux, c'était autour des années 90, où ils se sont posé la question sur la durabilité, en fait, puisque le diamant, il est naturel, et par définition, il va se tarir, les mines vont se...
Tu réponds à la question de l'auditeur.
Il va se tarir, les mines vont à un moment donné ne plus donner de diamants. Donc, quid de cette industrie et comment on fait en sorte que cette industrie reste vertueuse en respect bien évidemment de l'environnement, mais aussi des communautés locales avec lesquelles elle travaille en partenariat.
Et d'ailleurs, pourquoi tous les diamants n'ont pas été extraits vu que c'est tarissable?
Alors en fait, tous les diamants ne sont pas extraits parce que tous les diamants ne sont pas encore remontés. Tous les diamants, c'est très complexe pour ouvrir une mine de diamants comme pour la fermer.
On peut en fermer ?
Oui, quand la mine est terminée, le gisement ne produit plus, on peut fermer une mine de diamants. Et là, il y a tout un processus extrêmement important, suivi étape par étape entre les gouvernements locaux, les producteurs de diamants. Il y a un cahier des charges extrêmement strict avec des normes qualité. Je pense que c'est une des industries les plus restrictives en termes de normes pour ouverture et fermeture. Et en même temps, vous avez un exemple, et c'est ce que j'invite souvent à faire. J'invite d'ailleurs vos auditeurs, les journalistes, les médias, toutes les personnes qui sont intéressées de suivre la fermeture de la mine Argyle en Australie, qui a fermé fin d'année dernière. Et ça va être extrêmement intéressant de suivre sur les 2, 3, 4, 5 ans que la mine Argyle va mettre pour réhabiliter l'espace.
Donc, et ça devient quoi en général?
Ça sera une
ferme.
Alors, tout dépend du projet qui a été validé en amont, soit c'est remis à l'identique, donc rebouché, reconstruit, reconstitué, soit on en crée un espace un peu éco-durable, dans le sens où on fait en sorte que la faune et la flore reviennent dans les
donc
endroits.
Donc là, tu m'expliques que lorsqu'on décide d'installer une mine de diamants, mm-hmm. Finalement, on nuit à la biodiversité, à la faune et à la flore.
Non, pas dans les faits, en fait. Dans les faits, alors oui, effectivement, on creuse la terre.
On crée quelque chose, comme quand on creuse, fait un bâtiment, finalement.
On fait un trou dans la terre. C'est d'accord. Indéniable. On creuse, ça, c'est indéniable. C'est ce qui fait qu'on a une empreinte carbone et que jamais les membres de cette industrie vous diront qu'ils seront green. On aura une empreinte carbone minimum.
Mais comme toute industrie, finalement.
Comme toute industrie, puisqu'on creuse la terre. Sauf que c'est la seule chose qu'on fait. On creuse la terre uniquement et on ne travaille pas avec des produits chimiques, on ne travaille pas avec des choses qui pourraient altérer l'environnement ou nuire à l'écosystème ou au lac, au fleuve ou autre.
Est-ce que parfois, quand on voit que le terrain n'est pas propice à creuser, on renonce à aller extraire du diamant ?
Alors, avant, vous savez, il y a des territoires sur cette planète où il y a des diamants, mais qui n'ont pas été exploités.
Faut pas dire où c'est, sinon il y a des gens qui iront.
Pourquoi ? Parce que les conditions globales ne sont pas réunies.
Donc c'est comme tu disais, c'est tout un cahier des charges.
Comme pour l'ouverture et pour la fermeture. Parfois, on peut trouver un gisement et on va mettre 10 ans à obtenir des autorisations gouvernementales, locales, travailler avec les communes.
Parce
qu'en fait...
Comme les fouilles archéologiques, finalement.
C'est sur le même principe, le comparatif.
Oui, mais c'est parce que souvent, je me...
Pour vos auditeurs, effectivement, le comparatif peut être...
J'étais passionnée d'histoire quand j'étais petite, et du coup, à chaque fois, je me disais, pourquoi ils ne vont pas fouiller ? Et ma grand-mère me disait, mais non, Alice, là, ils n'ont pas le droit d'aller fouiller. Oh, bon.
C'est un peu ça, en fait. Donc, c'est aussi comment on perturbe l'écosystème local, comment on perturbe les communautés locales qui travaillent grâce à la terre, grâce à leur territoire. Donc, tout ça est pris en compte pour ensuite se dire on va ouvrir ou on n'ouvre pas. Ce n'est pas la course au profit, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce qui est aussi intéressant, nous, ce qu'on aime montrer et expliquer, c'est que c'est un produit naturel qu'on extrait de manière naturelle. On creuse la terre, effectivement, avec des camions qui sont très, 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 très grands. On a un film sur le site du Only Natural Diamond qui s'appelle Diamond of Botswana, qui a été réalisé par Livia First. Je pense que vous la connaissez. Voilà, c'est une des leaders d'opinion sur les questions de fast fashion et d'environnement. Donc, elle est partie sur le terrain pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passait là-bas et pour s'en rendre compte elle-même, en fait. Pas qu'on lui raconte des jolis discours très marketés, très enrobés, sans aucun élément factuel. Et elle le dit comme tout le monde. Hein. J'avais beaucoup d'appréhension quand je suis arrivée parce que... ça a suscité des conflits, le diamant, etc. Et du coup, je ne savais pas à quoi j'allais faire face, en fait. Et à sa grande surprise, elle a été extrêmement touchée par ce qu'elle a vu, fascinée par ce qu'elle a vu, parce que cette industrie s'est remise en question, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, il y a une vingtaine d'années. Donc, elle a déjà mis en place des process encore plus stricts que les normes actuelles. On a un de nos membres qui fait partie du fameux... le Stock Exchange de Londres, c'est les FTSE for Good, donc c'est les entreprises qui sont engagées, responsables. Un de nos membres fait partie de ce FTSE. Et du coup, ça montre vraiment l'engagement concret et factuel. L'autre sujet, c'est quand, par exemple, on va extraire un diamant, on fragmente ce qu'on appelle la kimberlite. La kimberlite, qu'est-ce que c'est ? C'est la roche dans laquelle le diamant a été enfermé pendant des milliards d'années. Cette roche, elle est fragmentée avec des produits chimiques, uniquement avec de l'eau. C'est la seule matière que l'on utilise pour
fragmenter. Et après, on en fait quoi de cette roche ?
Alors, il y a deux choses qui ont été faites. Je vous explique, il y a deux choses qui ont été faites. Cette roche, elle est mise de côté pour la réhabilitation du site. On a décidé d'étudier la composition scientifique de cette roche, parce qu'on se dit, tiens, elle a enfermé du diamant carbone. Donc, il y a toute une recherche qui a été mise en place par le docteur Kimberly Shaw, qui a démontré que la kimberlite absorbe le CO2. Donc, c'est une découverte majeure. D'ailleurs, c'est assez drôle que les médias ne se sont pas emparés un peu du sujet. C'est une découverte majeure qui a été faite par l'industrie du diamant et qui va continuer à être exploitée pour voir comment est-ce que cette découverte peut être mise à profit de l'ensemble de l'industrie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que diamantaire, hein, chimique, pétrolière, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est toutes ces petites choses qui ne sont peut-être pas significative ou pas suffisamment mise en valeur, je l'accorde, qui sont extrêmement importantes pour nous et qui sont des choses assez factuelles qui démontrent que notre industrie fait un effort, une réduction
après,
des effets.
Et après, donc là, toi-même, si tu vas pas citer d'exemple concret des maisons que tu représentes, je pense qu'après, c'est à chaque maison, dans sa façon de packager, de produire, après de réaliser des bijoux, que c'est là que tout se passe. Mais l'extraction même, finalement, je pense que vous avez limité au maximum l'impact. Est-ce que vous pouvez faire encore mieux ?
On travaille toujours pour faire mieux. Il y a toujours des points d'amélioration. C'est par exemple au Botswana. Alors, le Botswana est un pays que je trouve extrêmement intéressant par toutes les caractéristiques et comment il a pris en main le destin de son pays. Donc, c'est un pays qui a eu son indépendance il n'y a pas si longtemps que ça, fin des années 60, début des années 70. Et au départ, ils ont décidé de mettre à plat toutes les ressources naturelles qu'ils avaient pour pouvoir construire leur pays. Donc, ils se sont posé la question, comment est-ce qu'on va travailler, par exemple, les mines de diamants? Comment on va se créer de la valeur ajoutée? Comment on reprend le lead sur ces sujets-là? Donc, je vous donne un exemple. Au Botswana, quand vous extrayez un diamant d'une valeur 100, on va prendre un indice, on va dire que ça vaut 100 euros, 80,2% de la valeur du diamant reste au Botswana. Et elle sert localement à construire, ce n'est pas une utopie, des écoles, des routes, des infrastructures, des hôpitaux. Et le reste émet ce qu'ils appellent la central pool, donc c'est une sorte de tirelire pour penser à l'après, l'après-diamant. Qu'est-ce qui se passera quand demain la mine sera terminée?
C'est une économie entièrement basée sur le diamant.
Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de diamant? Sur quoi nous allons investir? Comment pouvons-nous investir dès demain sur des sujets importants? Tourisme, nouvelles technologies, le solaire, l'éolien, enfin, toutes ces choses-là, ce sont des... Voilà, c'est travailler en transverse. Donc, c'est comment ces pays prennent leur destin en main, en fait, grâce à l'industrie du diamant. C'est énormément de rétribution sociale aussi. Par exemple, un salarié dans l'industrie du diamant naturel gagne 66% de plus qu'un salaire local. C'est aussi des formations, c'est-à-dire ils sont formés. Vous découvrez des gens qui viennent d'horizons complètement divers et variés. Ça pouvait être un jardinier, ça pouvait être une femme de ménage. Et tout à coup, ils se sont intéressés par l'industrie. Ils viennent, ils apprennent à conduire des camions énormes, à trier des diamants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, parce que c'est un pays jeune, le Botswana. Et du coup, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect des populations. C'est aussi comment on accompagne ceux qui ont envie de développer l'agriculture pour ne pas, en période de sécheresse ou autre, avoir toujours de quoi se nourrir. Donc, localement, il y a des programmes pour accompagner les personnes qui souhaitent développer leur agriculture locale, adaptée à leur environnement, bien sûr. C'est tout plein d'indications comme ça qui permettent
de... C'est des challenges à la fois sociaux et environnementaux,
j'ai l'impression. Complètement. On est, par exemple, l'école est obligatoire au Botswana jusqu'à l'âge de 13 ans, quand chez nous, en France, doit être c'est 16 ans d'ailleurs. C'est jusqu'à 13 ans. L'école est gratuite, entièrement financée par l'État. Donc, c'est vraiment des choses très importantes, l'égalité homme-femme. Et ce n'est pas un non-sujet dans leur pays. C'est quelque chose de très, très important. Dans notre industrie, on est autour de 30 à 40% de femmes. Donc, il y a encore de l'amélioration. Je parle à des postes stratégiques. Il y a encore de l'amélioration à apporter, mais on dépasse les paliers de 40%. Je prends l'exemple, j'aime beaucoup cette femme. Elle est vraiment inspirante pour moi, en tout cas, en tant que femme. C'est Nassim Larry, qui est la Managing Director de Lucara Diamond. Lucara, c'est vous que vous connaissez probablement. Si, je vais vous donner un exemple. Ah oui, c'est eux. En fait, ils ont découvert les diamants les plus importants qu'on ait pu trouver ces 10 dernières années. Donc, c'est dans sa mine que ça s'est passé. Elle en est très fière, d'ailleurs. C'est le fameux Soweto que Louis Vuitton s'est acquis. Et c'est le Cetunia, dernièrement, que Vuitton a acheté aussi pour travailler autour de sa collection de joaillerie. Donc, c'est des engagements forts qu'on a au sein de notre industrie. C'est aussi l'inclusion. Il y a eu un programme qui a été mené en Namibie avec André Messica pour développer un pôle inclusion pour les personnes handicapées. Donc, ça peut être du handicap moteur ou de la malvoyance. Donc, des postes de travail pendant 2 ans. On a travaillé en collaboration avec les mines sur place pour pouvoir, Monsieur André Messica a travaillé tout un programme pour pouvoir faire en sorte que l'inclusion soit une réalité. Donc, c'est des sujets...
C'est
très dense, en fait. C'est très varié. On pourra en parler pendant des heures. Et c'est très enthousiasmant.
Et moi, si je suis un consommateur lambda qui veut limiter mon impact environnemental et que je me dis, je veux m'acheter un diamant, je veux me faire plaisir, je ne m'en achète pas tous les 36 du mois, donc c'est mon achat, mais je veux rester responsable. Déjà, est-ce que je choisis forcément un diamant de laboratoire ou pas forcément? Et est-ce qu'il y a des types de diamants plus polluants que d'autres?
Alors, tout dépend, en fait, de manière globale. Est-ce que vous voulez un produit issu d'un laboratoire ou un produit naturel?
Finalement, c'est pas le même achat.
C'est pas, oui, c'est pas
selon,
le même
achat. Non, mais c'est bien que tu me le dises,
c'est,
ça
c'est pas le
quand
même,
même
achat. Alors, j'aime pas faire le comparatif parce qu'au-delà des specs techniques, derrière, il y a une valeur émotion, quoi. Un diamant naturel, c'est entre 1 et 3 milliards d'années. C'est une capsule temporelle de la Terre à un instant T. Je sais pas, c'est une émotion différente pour moi.
Ça dépend de l'affect qu'on met dans le bijou.
Exactement. Et puis. Un diamant naturel, c'est comme un bijou en or, c'est un produit d'upcycling pour moi. Parce que vous n'allez jamais jeter votre bague diamant en or à la poubelle, donc elle ne va plus vous plaire, vous allez la céder, mais si elle ne vous plaît plus, vous allez la refaire ou un colis ou un
pendentif. D'ailleurs, il y a une énorme industrie de seconde main en
joaillerie.
Hein.
Qui est en train de se constituer et qui s'est constituée aussi, puis des ateliers de bijoux
sur
mesure.
Pour le coup, là, il y a vraiment une valeur affective énorme dans les bijoux.
Exactement. J'ai toujours dit que le bijou, c'est...
C'est le précurseur de
c'est l'émotion palpable, en fait. C'est l'émotion palpable. Parce qu'une émotion, enfin voilà, on ne peut pas...
C'est vrai que souvent, quand on passe un anniversaire, on veut marquer le coup, la première idée de cadeau, c'est
un bijou.
Ça va être un bijou.
Et peu importe. Hein,
peu importe. C'est une
émotion à l'instant T qu'on matérialise par un bijou. Et ça, c'est vrai que c'est un vecteur ultra puissant et on le garde et en général, on le donne. On a tous hérité de nos parents, nos grands-parents, de quelque chose. Alors, ça peut être... Peu importe ce que c'est, en fait. Mais il y a une valeur émotion derrière qui est tellement forte que c'est pour ça que nous, dans l'industrie du diamant naturel, on a cette exigence de transparence, d'informer le consommateur sur ce qu'on fait concrètement.
Et tu me disais par rapport donc d'un diamant à l'autre, par contre, en termes d'empreinte carbone, il n'y a pas forcément de...
Alors,
ça va dépendre plutôt de la maison après derrière de la marque.
Je vais vous dire objectivement, nous, notre empreinte carbone, on la mesure par l'étude Trucost, qui est je pense que vous connaissez, c'est un institut indépendant qui vient un petit peu mesurer tout ce qui se passe chez nous, d'un point de vue social, environnemental, empreinte carbone, tout ce qu'on peut valoriser et aussi en même temps montrer nos axes d'amélioration. Et ça permet aussi de mesurer...
Rester transparent, c'est important.
Exactement, et essayer de mesurer où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, parce qu'il y a quand même les objectifs qu'on s'est fixés par rapport au cahier des charges de l'ONU, mais au-delà de ça, on s'est fixé nos propres objectifs pour atteindre non seulement les objectifs de l'ONU, mais les atteindre avant une date donnée.
Et est-ce qu'il y aura une neutralité carbone ou pas de l'industrie du diamant, ou c'est pas possible?
De Beers, si je prends l'exemple de Beers, tend vers la neutralité carbone en 2030. Donc, c'est bientôt. Je nous souhaite leur succès, parce que c'est un bon indicateur sur ce qui est encore possible de faire. Et en même temps, ils ont entrepris tellement de programmes considérables. Par exemple, le Moving Giant, c'était un programme où, quand la population locale des éléphants s'est un peu trop développée dans un pays, il y a tout un programme qui s'est fait pour aller réimplanter des éléphants.
Ou adopte ton éléphanto.
Réimplanter des éléphants dans les pays où il y en a un peu moins. Donc tout ça, c'est des partenariats avec le National Geographic.
Moi, je préfère savoir quand il y a trop d'espèces que pas assez. Ça me rassure. C'est un côté.
Je suis complètement d'accord avec vous.
Rassurant.
C'est dernièrement le partenariat avec National Geographic et l'Okavanga, donc le fameux fleuve hyper important au Botswana, qui nourrit une faune, une flore et population locale. Enfin, c'est le fleuve indispensable à la survie de l'espèce, hein, j'ai envie de dire, mais de manière globale, hein, humaine, animale, tout ce qu'on veut. Et c'est plein de choses dans cet esprit-là. Quelle est notre empreinte carbone? On la mesure souvent. Nous, ce qu'on essaie de démontrer pour que ce soit très factuel, c'est qu'un carat de diamant, c'est l'équivalent de la fabrication de 2 iPhones. Pour que ce soit très parlant pour vos auditeurs, environ. On tend vers le fait que ce soit moins. Le reste de l'industrie...
Mais il y en a quand même moins qui se vendent, finalement.
Comment?
De diamants, il y en a quand même moins qui se vendent que d'iPhones.
Oui, il y a moins de diamants qui se vendent que d'iPhones, parce que la valeur n'est pas la même.
Moins, voilà, donc il y a moins de
la valeur
d'impact,
n'est pas la même,
finalement.
Mais la production reste... Alors, il y avait une baisse de production en 2013, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais la production s'est stabilisée, elle continue. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de clairement déterminer, c'est... je dis souvent, quand on me pose la question, est-ce que je dois acheter un diamant synthétique ou un diamant naturel? C'est même pas la question, en fait. C'est à quoi vous voulez contribuer quand vous achetez quelque chose, en fait. Quand vous voulez acheter là, on parle du diamant naturel.
Puis encore une fois, c'est une façon de consommer mieux. C'est-à-dire que si une fois ou deux dans sa vie, on s'achète un diamant, c'est peut-être pas très grave. Le problème, ce serait d'en acheter tous les deux jours ou... Enfin, ce...
J'adorerais qu'on en achète tous les deux jours entre
oui, mais,
nous.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est chacun... Tout le monde a le droit de posséder un diamant, je
Bien
pense.
Bien sûr, et heureusement.
Mais peut-être le faire de façon raisonnée, acheter une belle pièce et la faire durer. L'upcycler, comme tu disais. La faire revivre, la transmettre, la rendre...
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que quand on achète un diamant naturel, à quoi est-ce que l'on contribue ? C'est 77 000 emplois à travers le monde. C'est aussi faire vivre des populations locales. C'est autour de 7 milliards de dollars
comme,
de redevances.
Comme beaucoup d'industries,
tout à fait.
Mais encore une fois, moi, je suis plus pour la consommation raisonnée, raisonnable. Et peut-être, justement, plutôt que de renoncer, se dire bah, quelle vie j'ai donnée à ce bijou. Est-ce que ce soit pas une consommation de masse, même si on est quand même sur du produit de luxe et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de consommation de masse sur ce type de produit. Encore que je ne connais pas la sphère des très très riches et peut-être que...
Juste pour vous donner une indication sur le marché français, le diamant naturel, c'est 40% des ventes de bijoux.
Ah oui.
Donc, c'est derrière beaucoup d'emplois aussi, c'est toute une industrie en parallèle, parce qu'il y a les artisans, c'est pas juste des grands groupes qui travaillent le diamant naturel, c'est aussi des artisans, c'est aussi des indépendants. C'est toute une industrie derrière qui compte beaucoup d'emplois. Et effectivement, le diamant naturel draine ensuite le reste du marché. Je vais pas dire c'est grâce au, mais en partie, au diamant naturel que, par exemple, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, le marché horlogerie, bijouterie, joaillerie s'est stabilisé. À une chute moins prévue qu'il y a quelques...
En fait, c'est un produit qui se vendra toujours.
C'est un produit qui se vendra toujours. Mais comment on le consomme mieux, en fait ? Aujourd'hui, ce n'est pas ne plus le consommer, c'est le consommer, mais mieux, en fait, en étant...
Tout à fait. C'est exactement ce qu'on essaye de dire aussi dans l'empreinte, c'est apprendre... On n'invite pas tout le monde à se mettre en apnée, à plus respirer, à plus rien acheter. C'est apprendre à faire durer un produit, mieux le consommer, se raisonner, savoir si... Peut-être réfléchir à l'achat, se renseigner pour vraiment désirer... le produit, puis ensuite le faire durer, le transmettre.
C'est vrai, il y a aussi, je sais que nos membres échangent régulièrement sur leur méthode de travail, sur comment faire en sorte pour économiser de l'énergie. Donc, on a un de nos membres qui a développé tout un parc éolien dans le fin fond nord du pôle. Donc, pour un peu alimenter, bah, vous allez au Canada, vous savez, vous n'êtes pas loin des cercles polaires, donc là, il y a des mines de diamants. Et en fait, ben, pour un peu être indépendants énergétiquement, ils ont construit un parc éolien qui permet de les abreuver en énergie et être moins consommateurs de l'énergie destinée au reste
encore,
du pays.
Encore un vaste sujet, l'éolien, qui parfois...
Oui, c'est un vaste sujet.
Un vaste sujet aussi, mais c'est bien de prendre cette initiative, tout à fait.
C'est quelque chose d'assez important. Donc, mais encore une fois, quand on achète un diamant naturel, on contribue à une industrie vertueuse, contrairement aux idées reçues. On n'est pas dans les diamants du sang, parce qu'il y a et heureusement, depuis les années 90, il y a la résolution des Nations Unies qui interdisent la commercialisation des diamants non conformes aux droits de l'homme et aux chartes de l'ONU. Voilà, on peut consommer du diamant en toute sécurité en France et même à l'international d'ailleurs, parce qu'il y a cet engagement qui a été pris, non pas simplement par les producteurs de mines de diamants, parce que c'est un des pôles, si vous voulez, mais même les fabricants, les maisons, les marques, chacun a pris son parti pour être de plus en plus transparent. Donc aujourd'hui, alors effectivement, on peut se dire, oui, mais par exemple, mon certificat, j'aimerais savoir d'où vient exactement le diamant, de quelle mine, etc. Ce sont des points d'amélioration qui sont en train d'être mis en place.
Parce que ce n'est pas encore traçable jusqu'au bout, on ne peut pas encore...
On peut tracer, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place.
Ça, c'est important pour le consommateur de savoir d'où il vient, même s'il peut raconter son histoire au diamant.
Exactement, Donc c'est un peu l'idée, L'idée, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, demain, vous saurez exactement d'où il vient et à quoi il a contribué.
C'est important. Donc, je pense que justement, ça redonnera du sens à l'achat.
Mais complètement. Donc ça, c'est des sujets vers lesquels on tend déjà. Les objectifs sont en cours d'être atteints. Donc du coup, on est plutôt satisfait. Donc maintenant, on ne s'endort pas sur nos lauriers. On reste quand même vigilant sur d'autres sujets qui peuvent être là, comme la recherche, l'émancipation. Donc il y a plein d'autres sujets.
Bah, merci. Merci d'être venu dans l'empreinte.
Merci à vous.
Vaste sujet.
C'est un vaste sujet.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.